écoutez Radio Sud-Manche. Émission itinéraire Bémontois, au micro Jackie Prudor. Bonjour à chacune et à chacun, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons donc parler des marées. Enfin, on va commencer à parler des marées. Cette émission est issue de beaucoup de mes activités, dont deux principalement. Primo, l'époque où j'étais guide en baie du Mont-Saint-Michel pour me divertir, expliquer historiquement et culturellement la baie du Mont-Saint-Michel à mes clients qui effectuaient une traversée de la baie en ma compagnie au profit de l'association humanitaire Tapama. Je n'ai jamais pris un franc pour moi. J'ai souvent entendu des réflexions du genre « Jackie, c'est super, c'est très scientifique tout ça, mais finalement très facile à comprendre. Pourquoi tu n'en fais pas un livre ?» C'est en cours, mais on va commencer par une émission. Secondo, les formations que j'ai pu effectuer ici ou là, comme guide de la baie bien sûr, mais surtout à Brest au CHOM, Service Hydrographique Océanique Maritime, service officiel et garant officiel des études et calculs de marée en France, fournisseur unique et exclusif des tableaux d'horaires de marée, quel que soit le point de nos côtes françaises, le point nous concernant étant bien sûr la baie du Mont-Saint-Michel. Tertio, bien mes lectures diverses et nombreuses au fil des années. Au cours de mes explications, je ferai appel à votre bon sens, mais il n'y aura pas, pratiquement pas, de mathématiques, bien qu'il faille en connaître beaucoup et de haut niveau pour tout comprendre. Je vous rassure tout de suite, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, et pour avoir été doyen d'une fac de maths, je connais assez bien les mathématiques pour ne pas vous noyer avec des équations, ce qui serait absurde. Alors je vous promets que nous ferons tout sans recourir aux mathématiques tordues et compliquées, juste un peu d'arithmétique de niveau CM1, CM2. En effet, nous laisserons les aspects très difficiles qui ont peu d'intérêt pour ce qui concerne une initiation et l'application qu'on en fait au quotidien, en baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, pourquoi les marées sont différentes à Cuba ou en Indonésie. Si toutes les planètes ont un rôle dans nos marées, on négligera les calculs impliquant d'autres planètes que nous-mêmes et notre satellite, la Lune. Pourquoi ailleurs, sur la planète, y a-t-il une marée par jour alors qu'il y en a deux chez nous? Tout ça s'explique avec effectivement des équations, mais on évoquera ce sujet peut-être une autre fois.
La mer est immense, je ne peux traverser. Je n'ai pas d'aile pour la survoler. Préparez-moi un bateau pour deux. Nous ramerons mon amour et moi. Navire, je vois qui fend les flots, chargé à bord, et je ne sais si cet amour que j'ai en moi dans les abîmes m'entraînera contre un jeune chêne. Je me suis appuyé, pensant qu'il pourrait résister. Mais hélas, il a plié comme un amour, il s'est brisé. Dans un buisson, j'ai posé ma main, croyant tendre fleur y trouver. Mes doigts aux épines j'ai blessé la tendre fleur. Fait tomber l'amour et joie, l'amour et beauté. Ainsi les fleurs en le matin, mais l'amour passe et disparaît comme de la fleur rosée d'été.
La mer est immense de Graham Allwright, enfin plus exactement du folklore breton. Le plan de notre émission sera le suivant. D'abord, on va donner quelques repères, quelques définitions, car les marées ont leur propre vocabulaire, l'estran, le marnage, le flux, le reflux, le mascaré et j'en passe. C'est très simple, mais encore faut-il en connaître un petit peu. Deuxièmement, on fera un peu d'histoire. Comment ce phénomène est-il apparu? D'où vient-il? On évoquera les pionniers qui ont senti un phénomène naturel mais aux explications scientifiques et qui ont cherché à l'expliquer mais sans en posséder les outils. On s'arrêtera un peu sur certains personnages particulièrement significatifs de l'évolution. Ptolémée, Copernic, Galilée, j'en passe. On évoquera deux grandes périodes. La première, le géocentrisme, époque où l'on pensait que la Terre était au centre du monde, voire plate. Géo comme géographie ou géomètre, géo vient du grec qui signifie terre, et centrisme comme centre. Pour les géocentristes, notre terre est au centre de tout. La seconde, l'héliocentrisme, hélio, soleil en grec. Le soleil est le centre de notre univers, la terre n'étant qu'une planète parmi tant d'autres. Le troisième chapitre sera le principe général des marées. Tout sur les marées ou les marées pour les nuls, les marées expliquées aux enfants, comme vous voulez. On parlera des pleines et nouvelles lunes, des équinoxes et autres notions fondamentales, mais aussi de l'âge des marées. Et oui, les marées peuvent avoir un âge. En baie, elles ont souvent 2 jours environ. Je vous dirai tout ça. Pourquoi ça nous vient de l'ouest? Pourquoi il n'y a pas de marée ou quasiment pas en Méditerranée? Et donc en Corse. Je suis désolé pour mon ami Albert de Porticcio qui pense le contraire. Quatrième chapitre, les aspects plus secondaires. Les conséquences de la différence entre la montée et la descente du flux. Notamment pourquoi la baisse en sable, inéluctablement. L'histoire des douzièmes, les coefficients, le mascaré et autres petites gâteries. Nous ne traiterons sans doute pas tout dans une seule émission. Sans compter les pauses musicales. Mais nous ne sommes pas pressés et je préfère un auditoire satisfait que le contraire. Dernière remarque, je suis désolé pour celles et ceux qui voient encore en un dieu partout, comme seul maître de notre univers, car je suis un scientifique, je vous l'ai dit, et mon exposé est donc scientifique, rien de divin ou miraculé là-dedans. Bien au contraire, on verra même comment le monde du divin à raconter tant et tant de sottises qu'ils ont perturbé nos meilleurs savants. Nous habitons donc dans cette magnifique région qu'est la superbe baie du Mont-Saint-Michel, où les marées sont parmi les plus fortes du monde. Les deux autres sites avec de fortes marées sont l'un au sud de l'Angleterre avec les mêmes caractéristiques que chez nous, l'autre un endroit où les marées sont un peu plus fortes qu'ici, c'est la baie de Fundy, à la limite des USA et du Canada, côté Atlantique. Pour trouver un événement terrestre qui soit à la source du phénomène des marées, il nous faut retourner très très loin en arrière, à quelques milliards d'années. En effet, lorsqu'une météorite est venue nous cogner, mettre un bazar terrible pour mal se mélanger avec la Terre alors en fusion, au point qu'on a dû la virer quelque temps après, et lui donner le droit de se transformer en un magnifique satellite. C'était la naissance de Madame la Lune. Dès lors, notre amie la Lune a été la cause de nombreux phénomènes naturels sur notre planète Terre, cette belle Terre-mère, comme le disent si bien certaines peuplades. Terre-mère que nous sommes peut-être en train d'abîmer sérieusement. Quant aux premiers instants connus où l'on a commencé à réfléchir à ce phénomène naturel qu'est la marée, il faut remonter au temps des Grecs, environ 1000 ans avant notre ère, il y a donc environ 3000 ans.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
D'abord, quelques repères et définitions. La mer monte et descend. Bon, on est d'accord. Imaginons la marée la plus forte possible. Alors la mer va se retirer très loin. On va dire que ce point, cette limite la plus lointaine, la plus basse où elle se retire, c'est l'altitude zéro. Le Mont Blanc étant à 4807 mètres d'altitude, S'il est à 4807 mètres, c'est qu'il y a bien un zéro quelque part. C'est à peu de choses près l'endroit où la mer se retire au plus loin. La haute mer ou pleine mer, c'est l'endroit que la mer atteint quand elle est au plus haut. En baie du Mont-Saint-Michel, cela peut atteindre l'altitude 15 mètres. Le marnage, c'est la différence d'altitude entre la haute mer et la basse mer. Aujourd'hui, le marnage est peut-être seulement de 10 mètres si l'on a une marée moyenne. L'estran, c'est la surface de la baie du Mont-Saint-Michel comprise entre ces deux lignes, la ligne du niveau zéro et celle des plus hautes marées. On appelle aussi juridiquement le DPM, domaine public maritime, où l'on peut, avec l'autorisation, faire paître des vaches et surtout des moutons. Le flux, c'est l'action de la mer qui monte. Le reflux, c'est l'action de la mer qui descend. On l'appelle aussi le jusant. Étale, on dit que la mer est étale entre l'instant où elle est arrivée au maxi et le moment où elle décide de repartir, de descendre. Cela ne dure que quelques minutes. Idem dans le sens inverse, après la fin de la descente, du reflux, avant de remonter. Une onde. Dans notre contexte maritime, une onde est une force déclenchée par un phénomène naturel qui s'étend plus ou moins loin. Si vous prenez le point central d'un tremblement de terre, celui-ci provoque une onde de choc pouvant aller assez loin de l'épicentre. Et si cette onde est désastreuse sur terre par les éboulements, chutes en tout genre qu'elle provoque, on se souvient de l'onde du tsunami de Fukushima au Japon qui a provoqué une vague gigantesque dévastant tout ou presque sur son passage, y compris une centrale nucléaire dont l'humain n'avait jamais prévu qu'elle reçoive un tel visiteur. Le mascaret, c'est aussi une onde sous forme de vague, on l'appelle aussi la barre, qui part de la mer et remonte les rivières de la baie, le Couesnon, la Cée et la Cellune, en période de forte marée. Mais pourquoi? On verra ça plus tard. On parlera aussi du mascaret le plus fort du monde, en Chine. Ça y est, on est déjà un peu dans l'ambiance, carrément dans la baie, super. Très bien, alors on se fait une petite pause médicale, tranquille.
Va changer ce soir. On prend un nouveau départ. La neige a blanchi le monde. Les enfants sont pleins d'espoir. Tout va changer. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour que de là-haut te tombe en rafale une pluie de cadeaux sous un torrent d'étoiles. Demain il fera beau. Tout va changer ce soir. Selon notre bon vouloir, les rues seront des théâtres. On jouera sur les trottoirs. Tout va changer. Hier, il ne reste rien. Demain, c'est le grand spectacle qu'on allume des millions de chandelles, qu'on change de costume. Ce soir, la vie est belle. tout a changé déjà. Pendant qu'on chantait tout ça, demain est venu en douceur et la course ne s'arrêtera pas, pas plus que la grande ours, pas plus que toi et moi.
Merci, monsieur Michel Fugain. Bien sûr que tout va changer demain. Avant de nous lancer dans les évocations historiques, donnons une définition de la marée. La marée est la déformation de notre planète Terre, provoquée par les forces de gravitation exercées par les astres voisins de notre système solaire. Je répète, la marée est la déformation de notre planète Terre, provoquée par les forces exercées par les planètes de notre système solaire. Il se trouve que dans la partie solide de notre Terre, la fameuse Terre-mère, faite de terre et de cailloux en surface, les effets de marée sont minimes et ne peuvent être mis en évidence qu'à l'aide d'instruments de mesure très sophistiqués. Par contre, la partie liquide, donc la mer faite exclusivement d'eau, elle s'en prend plein la figure. Aussi, le mot marée évoque-t-il principalement la variation du niveau de la mer, telle qu'elle est observée depuis les côtes. Le mot marée lui-même vient du latin mare, M-A-R-E, la mer. Un brin d'arithmétique. Imaginez une fraction avec un numérateur et un dénominateur. Exemple 3 septièmes. 3 est le numérateur, 7 le dénominateur. Au numérateur, écrivons la masse d'une planète de notre système solaire, Mars par exemple. Au dénominateur, le carré de la distance qui nous sépare de Mars. Facile. On prend la distance qui nous sépare de Mars, on l'élève au carré et on divise sa masse par ce nombre. On obtient la valeur de la force que Mars exerce sur nous en permanence. Pour le Soleil, il est tellement lourd, mais il est tellement loin. Ça va donner un résultat plutôt médiocre. Par contre, la Lune, elle est beaucoup plus petite, mais beaucoup plus proche. Le résultat de la fraction est donc plus intéressant, c'est la force que nous subissons et qui déforme nos océans en provoquant ces marées. Comment déforme-t-elle la Terre ? N'allons pas trop vite, on y reviendra. Et le vainqueur est donc Madame la Lune. C'est la Lune qui exerce la plus grande force sur nos océans depuis sa création. Mais aussi c'est la Lune qui pilote d'autres phénomènes naturels sur notre Terre-mère, comme le cycle menstruel féminin par exemple, et bien d'autres choses encore. Le cycle est d'environ 28 jours. C'est le cycle lunaire. Abordons un peu d'histoire, et vous verrez qu'avec le fil des découvertes des uns et des autres, vous allez déjà vous initier à cette théorie des marées. On a assez peu d'informations de la part des Grecs et des Latins. D'abord parce qu'ils vivaient autour de la Méditerranée, zone dans laquelle les marées sont très faibles. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et n'oublions pas qu'à l'époque, l'image de la Terre était une galette plate qui flottait sur l'eau, entourée d'une cloche qui portait les étoiles. Le premier que nous allons évoquer est Pythagore, vers moins 600. L'an zéro est celui nommé couramment Jésus-Christ. On devrait le déplacer à l'âge du début de l'écriture, ainsi nous serions en l'an 5000 et quelque chose. Pythagore estime que la Terre n'est pas plate, mais sphérique. L'autre jour, au bord d'une route du Tour de France, ma fille Alexandra a vu un homme avec une pancarte énoncer que la Terre était plate. En 2021. Le pauvre homme. Le second, c'est Platon, de moins 428 à moins 348. Les eaux sortent d'un gouffre et agitent les mers, et c'est pour ça qu'il y a des marées. Bon, le mot marée était prononcé, mais enfin, c'est pas terrible. Ensuite, Héraclide, de moins 388 à moins 312, il observe la coïncidence entre l'aspect de la Lune et l'importance des marées, et en déduit que la Lune et le Soleil sont la cause des marées, ce qui est juste, mais il n'a pas les moyens d'en donner l'explication. C'est dommage. Aristote, notre grand savant Aristote et philosophe, disciple de Platon, moins 384 à moins 322. Notre vieux copain Aristote, il y a donc environ 2345 années, c'est faux à quelques années près, mais j'adore une date facile à retenir avec des chiffres qui se suivent, 2, 3, 4, 5, 2345 années, ça fait un paquet de temps. Aristote trouve que la Terre est sphérique. Lorsqu'un navire apparaît à l'horizon, il voit d'abord la pomme du mât, puis les voiles, puis la coque. Pour cela, il faut que la Terre soit ronde et courbe, donc sphérique. Lorsqu'il voyageait en se déplaçant vers le sud, il voyait des étoiles nouvelles non visibles chez lui, parce qu'il se promenait sur une sphère. Donc, déjà à cette époque, c'était la preuve de la sphéricité de la Terre. Mais pour lui, la Terre était le centre du monde. Cette idée est restée longtemps d'actualité. Il pensait que les eaux de surface écrasaient les eaux profondes, ce qui provoque les mouvements de la mer, donc les marées, mais sans avoir vu le mouvement d'ensemble. On peut le comprendre, c'était pas facile à cette époque. Merci Monsieur Roland Diens, votre foule d'Édith Piaf était merveilleuse. Monsieur Roland Diens a ainsi enregistré deux CD, je crois, au moins deux en tout cas, d'œuvres de variété, de chansons, qu'il interprète seul à la guitare. Hélas, il ne pourra pas en interpréter d'autres parce qu'il a disparu dans un accident d'avion. Revenons à notre historique des savants. Monsieur Ératosthène, moins 276, 1994. Astronome, géographe, philosophe, mathématicien grec, il fut directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Alexandrie où il est mort. Inventeur du mot géographie. Il fut le premier à établir la circonférence de la Terre, prouvant, une fois de plus, qu'elle est bien sphérique. Son erreur fut de 1%. Chapeau, monsieur. Sans calculette ni règle à calcul. Bravo. Il invente une distance mesurée en pas de chameau, qui deviennent ensuite des stades. Et un stade fait 158 mètres. La circonférence de la Terre est fixée à 39 375 km à l'équateur. En réalité, aujourd'hui, on sait qu'elle est de 40 075 km. Bravo, monsieur, bravo. On passe à Aristarque, moins 220 à moins 143. Il fut aussi directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Selon Aristarque, la Terre n'est sans doute pas le centre du monde. Tiens donc, on commencerait à douter ? Sinon, on a beaucoup de mal à expliquer la trajectoire apparente de la planète Mars, déjà visible à l'œil nu. La lunette, et encore moins la jumelle, n'existe pas. Elle arrivera dans 1500 années. Environ. On constate que la Terre va dans une direction, puis elle fait demi-tour, elle repart en arrière, puis de nouveau repart en avant. Pour les gens de l'époque, c'était inexplicable avec la Terre au centre du monde. Il propose donc une vision héliocentrique, le Soleil au centre de l'univers. Mais c'était déjà une hérésie pour l'époque, alors il n'a pas trop insisté. Monsieur Pline l'Ancien, de 23 à 79. On a donc dépassé Jésus-Christ. Naturaliste romain, grand serviteur de l'État, ayant à commander des galères. Il a assisté à l'éruption du Vésuve, puis parti avec ses bateaux pour essayer de sauver ses amis qui voulaient échapper à cette région. Mais il en mourut, asphyxié par les gaz et poussières du volcan. Mais comme navigateur, il avait préalablement beaucoup étudié le phénomène des marées, qu'il attribuait à la Lune et au Soleil. Sans en avoir la preuve, pensant que la Lune attire les eaux, formant des marées de pleine Lune, augmentées par les affluences annuelles du Soleil, formule très proche de la vérité. Pas mal du tout, monsieur Pline. C'était aussi un grand scientifique écrivant l'ensemble du savoir scientifique de l'époque, rédigeant une histoire naturelle en 37 volumes. Quel boulot! L'imprimerie n'existait pas encore, hein. Monsieur Claude Ptolémée, 90 à 168. Là, on va marquer une pause chez ce monsieur Ptolémée. Ptolémée porte le nom d'un certain nombre de pharaons des dernières dynasties, mais ça n'a rien à voir. Il est astronome et mathématicien réputé. Il revient au géocentrisme, parce que plus facile pour l'esprit à l'époque, mais avec son modèle au centre duquel se trouve la Terre, autour de laquelle il fait tourner différentes planètes, dont le Soleil. C'était sorti de l'explication du mouvement rétrograde des planètes en imaginant que les planètes effectuaient elles-mêmes des cercles autour de leur trajectoire circulaire, elles-mêmes autour de la Terre. Il rédigea un immense ouvrage, qu'on appela l'Almageste, en 13 volumes, où il parla à la fois de la Lune, du Soleil et des planètes, mais aussi de la culture des arbres fruitiers, de la cuisine, etc. Véritable encyclopédie avant la lettre du savoir de l'époque. Attention, cet homme est dangereux. Brillant mathématicien intervenu sur beaucoup de sujets, très souvent avec juste raison, mais pour son géocentrisme, désolé, là, il se plante totalement. En soi, on pourrait s'en moquer un peu, passer à autre chose. Eh ben non, pas du tout, parce qu'il sera pris comme référence scientifique pour la rédaction de la Bible, la Sainte Bible, qui devient la vérité vraie contre laquelle on ne pourra jamais rien énoncer de contraire. Sous peine d'excommunication, de prison, voire de mort. Eh oui, mon brave monsieur, de mort. Même le grand Galilée, quelque temps plus tard, a bien failli y laisser sa peau. On y reviendra plus tard. J'ai entendu dire que quelqu'un avait dit et écrit « Tu ne tueras pas ». Arrivons à Saint-Augustin, 354-430. C'est un évêque africain comme la musique que nous venons d'entendre qui rappelle le film Out of Africa. En 354-400, il accepte l'influence de la lune, malgré la pression de la religion, déjà très importante à l'époque. Dès qu'on exprime quelque chose contraire au dogme, on est hérétique, donc susceptible de peine de mort. On ne touche pas à la Bible, au point qu'il ne se passera plus rien pendant près de 1000 ans. On passe au Moyen-Âge. On passe aussi donc à Saint Thomas d'Aquin, 1228-1274. C'est un théologien italien. Il reprend la même interprétation que Saint Augustin. Le passage de la lune fait monter les eaux vers elle. Mais lui aussi ne le crie pas trop fort, à cause de la répression que cela peut entraîner. Il lui manque aussi des données scientifiques incontestables. On arrive donc en Pologne, chez M. Copernic, 1473-1543. Et là aussi, on va marquer une pause. Nicolas Copernic, l'humaniste digne d'Érasme et ses successeurs, est né le 19 février en 1473 à Toruń, ville de Prusse royale, au sein du royaume de Pologne. Il est le cadet d'une famille qui compte 4 enfants. Son père est un riche marchand de Cracovie venu s'installer à Toruń afin de profiter du florissant commerce de la ville. Orphelin alors qu'il n'a que 10 ans, il est recueilli avec ses frères et sœurs par leur oncle maternel, M. Luca Watzenrode, 1447-1512, un homme d'une grande culture, reconnu pour ses faits d'armes et surtout pour son titre d'évêque de Warmi. Après avoir suivi les enseignements de Bernard Sculetti, 1455-1518, le futur chapelain du pape Léon X, le jeune Nicolas Copernic, alors âgé de 18 ans, est envoyé par son oncle étudier la théologie, mais surtout le droit canon et les arts libéraux à l'université de Cracovie. Sous l'influence de son professeur Albert de Brudzewo, astronome polonais, il acquiert ses premiers rudiments d'astronomie. En 1496, il prend la route de l'Italie afin de suivre les cours de l'université de Bologne. Toujours spécialisé dans le droit et la philosophie, il fait la rencontre Domenico Maria Novara, astronome italien 1454-1504, avec qui il réalise de nombreuses observations astronomiques et découvre la littérature scientifique et philosophique portant sur le sujet. Entre-temps, son oncle le fait nommer chanoine de Frombork. Après avoir pris ses fonctions, Nicolas Copernic quitte à nouveau la Pologne afin de terminer ses études à Padoue. Tout en suivant un cursus de médecine, il y obtient le titre de docteur en droit canon, mai 1503. Il reprend ensuite le chemin de la Pologne qu'il ne quittera pratiquement plus jusqu'à sa mort. En tant que chanoine, Copernic exerce de grandes responsabilités économiques et politiques. En tant que médecin, il soigne son oncle, l'évêque de Warmi. En parallèle, il a rédigé un important ouvrage de réforme économique et monétaire. Mais ses activités ne le détournent pas de sa passion, l'astronomie. Chacun de ses voyages est l'occasion d'observer le ciel, et à Frombork, il fait élever une tour près de la cathédrale afin d'y aménager un observatoire. Sa lecture des auteurs grecs, latins et arabes et la qualité de ses examens lui permettent de remettre en question le système géocentrique de l'astronome grec Claude Ptolémée, prédominant jusque-là. Au système géocentrique, qui, au prix de nombreux aménagements complexes, place la Terre au centre d'un système de planètes tournant autour d'elle, il préfère un système héliocentrique simplifié. Discret sur ses découvertes et ses hypothèses, son ouvrage « Du mouvement des sphères célestes », en latin « De revolutionum orbium », dont il a sans doute achevé la rédaction dès 1530, n'est imprimé à Nuremberg qu'en 1543, quelques semaines avant sa mort. C'est son ami et disciple Georg Joachim von Lonschen, surnommé Reticus, astronome polonais 1514-1576, qui va tenter de diffuser l'œuvre de son maître. Celle-ci, qui doit a posteriori donné naissance à la révolution copernicienne, ne rencontre que peu d'écho dans les premiers temps. Elle ne prend toute son importance qu'avec son développement au travers des travaux de Tycho Brahe, l'astronome danois, de Galilée et de Johannes Kepler. Copernic meurt en mai 1543 d'une hémorragie cérébrale. Autrement dit, il a tout inventé et écrit en douce, libre à ses successeurs de confirmer sa démonstration. Mais comme il est mort, l'Église ne dit rien, mais n'en pense pas moins.
I'm gonna sing Fly Me to the Moon.
Okay, join it.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
C'était la célèbre chanson « Fly me to the moon »,« Emmène-moi dans la lune », chantée par Angelina Jordan. Elle avait alors 8 ans et se présentait dans un radio-crochet. Elle fit merveille, elle doit en avoir environ 16 ou 17 aujourd'hui. Je ne sais pas où en est sa carrière, mais à mon avis, elle promettait beaucoup. C'est le moment ou jamais de parler du rôle et l'influence de l'Église qui défend sa Bible bec et ongles. La bonne vieille Église romaine a mis en place 2 structures. Le tribunal de l'Inquisition. Il est chargé d'aller à la chasse aux opposants, aux hérétiques, qui sont lourdement sanctionnés pour leurs opinions contraires à la Bible. L'index. C'est la liste des ouvrages ou auteurs interdits à la lecture, à la diffusion et bien sûr à l'impression. Classés, écrits, séditieux qui justifient de sanctions odieuses à la panoplie, excommunication, bannissement, prison, mort, j'en passe, et des meilleurs. Galilée, cher Galilée, mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien. Là, on va marquer plus qu'une pause, une vraie halte. Galilée est né le 15 février 1534 à Pise. Il est décédé le 8 janvier 1642 près de Florence. Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche pour procéder à des observations du ciel qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Cet homme de science s'est ainsi posé en défenseur de l'approche copernicienne de l'univers proposant d'adopter l'héliocentrisme. Ces observations et généralisations se sont alors heurtées aux critiques des théologiens de l'Église catholique romaine et des Églises protestantes. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la prudence qui lui était prônée par ses propres protecteurs religieux. Par ses études et ses nombreuses expériences, ce chercheur toscan a posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique. Il est considéré depuis 1680 comme le fondateur de la physique, qui s'est imposée comme la première des sciences exactes modernes. Arrêtons-nous sur la vie de Galilée. D'abord, n'a-t-on pas donné son nom au nouveau système européen de GPS bientôt en service ? Bien sûr. En quelques semaines, il découvre la nature de la Voie lactée, dénombre les étoiles de la constellation d'Orion et constate que certaines étoiles visibles à l'œil nu sont en fait des amas d'étoiles. Le 7 janvier 1610, Galilée fait une découverte capitale. Il remarque trois petites étoiles à côté de Jupiter. Après quelques nuits d'observation, il découvre qu'il y en a une quatrième et qu'elles accompagnent la planète. Ce sont les satellites visibles de Jupiter. Le 25 juillet 1610, Galilée tourne sa lunette astronomique vers Saturne et découvre ses anneaux, les fameux anneaux de Saturne. Le mois suivant, Galilée trouve une astuce pour observer le soleil à la lunette et découvre les taches solaires. Il en donne une explication satisfaisante en septembre 1610. Poursuivant ses explications, il découvre les phases de Vénus. Pour lui, c'est une nouvelle preuve de la vérité du système copernicien. Car s'il est facile d'interpréter ce phénomène grâce à l'hypothèse héliocentrique, il est beaucoup plus difficile de le faire à l'aide de l'hypothèse géocentrique. Il est invité le 29 mars 1611 par le cardinal Maffeo Barberini, futur pape Urbain VIII, à présenter ses découvertes au collège pontifical de Rome. Galilée reste dans la capitale pontificale un mois complet, durant lequel il reçoit tous les honneurs. Le 28 décembre 1612, Galilée est, grâce à sa lunette, le premier humain à observer Neptune. Lorsque Pérec, ami et ancien élève de Galilée, apprend que son maître est inquiété, il envoie une lettre au cardinal Barberini. Le 6 août 1623, l'ami de Galilée, ce cardinal Barberini est élu pape sous le nom de Urbain VIII. Vous croyez que peut-être, vous avez tout faux, et vous allez voir. Le 3 février 1623, Galilée reçoit l'autorisation de publier son Saggiatore qu'il dédie au nouveau pape. L'ouvrage paraît le 20 octobre 1623. L'année suivante, ses adversaires tentent de le priver de l'allocation qu'il reçoit de l'université de Pise, mais la manœuvre échoue. L'ouvrage « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » demandé à Galilée par le pape Urbain VIII lui-même vers 1620 est publié en 1632.
Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle l'a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'es défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondel dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
Vous avez reconnu Georges Brassens, c'est son pornographe. Dans les années 1620, après la censure de ses thèses, Galilée passe un mois à Rome où il est reçu plusieurs fois par le pape Urbain VIII, qui a pour lui une grande amitié. Il lui expose le plan de l'étude commandité par celui-ci, dialogue sur les deux grands systèmes du monde, ouvrage devant présenter de façon neutre les avantages comme les inconvénients du système de Ptolémée et du système de Copernic. En effet, le pape qui apprécie Galilée ne veut pas qu'il fasse figurer des arguments si peu convaincants, notamment à propos de sa théorie sur les marées, conseil dont Galilée ne tiendra pas compte. Les yeux de Galilée commencent à le trahir en mars et avril. Le 21 février 1632, Galilée, protégé par le pape Urbain VIII et le grand-duc de Toscane Ferdinand II de Médicis, fait paraître à Florence son ouvrage où il raille sensiblement le système géocentrique de Ptolémée. Galilée, qui veut écraser ses adversaires, publie son ouvrage en demandant l'imprimatur, c'est-à-dire l'approbation de l'Église. Galilée est donc à nouveau convoqué par le Saint-Office le 1er octobre 1632. Deux choses lui sont reprochées. Avoir tenu et cru la doctrine fausse et contraire aux Saintes Écritures que le soleil est le centre du monde. Ainsi que d'avoir tenu et cru qu'une doctrine qui a été déclarée et définie contraire aux Saintes Écritures peut encore être tenue et défendue comme prouvable. Malade, Galilée ne peut se rendre à Rome qu'en février 1633. Les interrogatoires se poursuivent jusqu'au 21 juin avec une menace de torture. Galilée cède. Le 22 juin 1633, au couvent dominicain de Santa Maria, la sentence est rendue. Il est paru à Florence un livre intitulé « Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic » dans lequel tu défends l'opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la terre et repos du soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'Église. Et afin que ta grande faute ne demeure impunie, nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Galilée doit alors prononcer également la formule d'abjuration que le Saint-Office lui avait préparée, l'humiliation jusqu'au bout du bout. Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzo Galilei de Florence, âgé de 70 ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux, inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les saints évangiles, jure que j'ai toujours tenu pour vrai et tiens encore pour vrai, et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la terre n'est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée que quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit. Et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les saintes écritures, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants sans la réfuter en aucune manière. Ce pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie, pour avoir professé et cru que le soleil est le centre du monde, est sans mouvement et que la terre n'est pas le centre et se meut. J'abjure et maudit d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. Le texte de la sentence est diffusé largement. À Rome le 2 juillet, le 12 août à Florence. La nouvelle arrive en Allemagne fin août, aux Pays-Bas espagnols en septembre. Les décrets du Saint-Office ne seront jamais publiés en France. Mais prudemment et pour éviter la controverse, René Descartes renonce à faire paraître son traité du monde et de la lumière. La condamnation de Galilée est immédiatement commuée par le pape en résidence surveillée. Le scientifique n'est donc jamais allé en prison et continua même à percevoir les revenus de deux bénéfices ecclésiastiques que le souverain pontife lui avait octroyés. La deuxième sanction, la récitation des psaumes de la pénitence une fois par semaine pendant un an, sera effectuée par sa fille religieuse carmélite. D'abord assigné à résidence chez l'archevêque Piccolomini à Sienne, il obtient finalement d'être relégué chez lui à Florence, dans sa villa d'Arcetri, non loin de ses filles au couvent. Un tableau existe, Galilée au tribunal de l'Inquisition, par Cristiano Banti, peint en 1857. Chers amis auditeurs, attention à la chute de l'histoire. La condamnation de Galilée fut enfin levée 359 années plus tard, en 1992, j'ai bien dit en 1992, par le pape Jean-Paul II. Amen. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai même dépassé le temps imparti. Je m'en excuse auprès de ma collègue qui suit. On continuera la prochaine fois. N'oubliez pas, j'attends tous vos commentaires sur le site de Radio Sud-Manche ou bien le Facebook de Radio Sud-Manche, mais tout simplement en direct sur tombelaine@orange.fr. Bon dimanche et à bientôt.